Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
Grand jury, le mag avec Vincent Parisot.
C'est votre rendez-vous politique du dimanche soir qui est ancré dans notre vie quotidienne au cœur d'une séquence de grandes tensions politiques et sociales marquée par ces scènes de violence de plus en plus fréquentes et radicales après le 49-3, le rejet de la motion de censure et ce week-end dans un tout autre contexte, hein, sur un autre terrain à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les méga-bassines. Alors, au menu ce soir, le grand jury de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et son débrief avec ses intervieweurs, l'isolement élyséen qui inquiète dans la majorité, la mobilisation contre la réforme des retraites, mais cette fois en version bon enfant à vélo. Et puis, on va revenir sur l'annonce de l'interdiction de TikTok et des applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents de la fonction publique d'État. Pour quelles raisons? Quels sont les risques? On en parlera avec un spécialiste, Damien Bancal.
Grand jury, le mag, Vincent Parisot.
La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, était donc l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LC la mi-journée. Il a bien sûr beaucoup été question du contexte de violence de ces derniers jours. Après le 49-3 et le rejet de la motion de censure, violence verbale, menace sur les élus, violence physique contre les forces de l'ordre, contre la réforme des retraites ou comme hier à Sainte-Soline contre les méga-bassines.
La République est attaquée par ce type d'individus. Cette manifestation était interdite par la préfecture et donc ces personnes-là, dont des élus, bravent l'interdiction et viennent pour mener une bataille rangée. Et par ailleurs, ces individus s'attaquent à des hôtels de ville. On a vu tous les images de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais ils s'attaquent également à des commissariats, à des préfectures, à tous les lieux qui symbolisent l'ordre, l'institution et donc notre République. Et cela me gêne, oui, que des élus bravent la loi comme si, parce qu'on était élu, on était au-dessus des lois. On n'est pas au-dessus des lois. On voit qu'il y a un déchaînement de violence contre les élus d'une façon générale. Moi-même, j'ai à nouveau fait partie ces derniers jours aussi de lettres de menaces absolument abominables. Je vous la montre, ça commence très aimablement par « Salut la grosse truie juive, 5 bâtards youpins, tu nous files du boulot ». J'ai deux pages comme ça. Jamais. Je n'aurais imaginé qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale, la violence physique à travers nos permanences. Il faut absolument que nous fassions très attention.
Édouard Philippe a salué hier la très grande responsabilité des syndicats. Est-ce que vous le faites aussi? Ou alors est-ce qu'ils n'ont pas proposé de compromis, comme le disait Emmanuel Macron mercredi?
Je salue l'attitude des syndicats, mais je leur dis également, il faut revenir à la table des discussions. C'est important pour nous, collectivement. Travaillons sur d'autres sujets, sur l'égalité salariale, sur la pénibilité, sur les reconversions. Il y a tant à faire.
La visite du roi Charles III a donc été annulée pour la semaine prochaine. Est-ce que vous dites que c'était la meilleure des décisions dans ce contexte?
Il était plus prudent et plus sage, plus prudent également aussi en termes de maintien de l'ordre. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sa venue aurait été exploitée par ces mêmes individus pour continuer à semer le désordre et le chaos.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et on y revient avec ses intervieweurs. Jim Jarassé du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Damien Fleureau pour TF1 LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Et pour RTL, évidemment Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr,
bonsoir.
Bonsoir. Et Olivier Bosse pour RTL qui a mené les débats. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
En écoutant l'émission, on se dit finalement que Yaël Braun-Pivet ne dit pas vraiment autre chose qu'Emmanuel Macron, mais elle le dit vraiment différemment et très différemment de la manière dont il l'a dit jeudi dernier.
Elle est effectivement alignée sur des objectifs qui ont été donnés par le président de la République, celui de remettre autour de la table des syndicats pour parler de tout sauf des 64 ans, pour parler du travail. Elle est en ligne effectivement pour que le gouvernement trouve les moyens de gouverner par la suite à l'Assemblée nationale avec des majorités. Mais si on écoute bien dans le détail quand même, vis-à-vis d'Elisabeth Borne, elle se montre quand même un peu critique et surtout assez sceptique sur la recherche d'une majorité par la Première Ministre, d'une nouvelle majorité. Donc c'est un soutien, mais pas la Première Ministre.
Damien Fleureau.
On sent bien dans le poids du corps que Yaël Braun-Pivet aurait peut-être préféré que l'exécutif, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, passe plus de temps à discuter avec Laurent Berger, en clair, c'est ça. Et c'est une petite musique qui remonte au sein de la majorité, je trouve.
Mmh. Jim Jarrassé,
Yael Braun-Pivet, elle a une position tout à fait particulière en Macronie. La première chose, c'est qu'elle vient du Parti Socialiste. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, elle peut avoir une approche de méthode totalement différente vis-à-vis des macronistes qui viennent de la droite ou des libéraux qui viennent de la société civile. Donc, elle est plutôt dans une vision de la démocratie sociale, du lien avec les syndicats qui doit être préservé. Donc, on sait, on sent qu'elle est en contact encore avec notamment Laurent Berger. Et puis, Yael Braun-Pivet, c'est aussi la présidente de l'Assemblée. Donc, elle a une position assez consensuelle. Elle se doit de représenter l'intégralité du spectre politique des députés, ce qui explique aussi peut-être une certaine forme de réserve et de prudence qu'on observe chez elle par rapport aux membres de l'exécutif qui, eux, défendent avant tout la mission du gouvernement et le passage...
J'allais vous dire, Olivier Véran aussi vient de la gauche, finalement, oui, et il n'a pas tout à fait le même discours.
Exactement.
Yael Braun-Pivet a vraiment eu des propos très pondérés tout au long de l'émission. Par exemple, sur Sainte-Soline, elle ne s'avance pas autant que Gérald Darmanin. Donc évidemment, elle condamne les débordements, mais elle n'utilise pas le mot de violence policière. Elle n'utilise pas non plus de... elle ne nomme pas l'ultra-gauche comme peut le faire, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Mais aussi, on sent que c'est pour se positionner parce qu'il y a un rebattement de cartes, de jeu de pouvoir qui est en train de se jouer et pourquoi pas un potentiel remaniement aussi à la clé.
Merci Marie-Pierre, Jim Jarrassé, Damien Fleurot, Olivier Bost. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes. On va parler de l'isolement du président. Inquiète-t-il ou non la majorité? Le chef de l'État qui, je vous le rappelle, recevra demain midi Elisabeth Borne et les principaux cadres de la majorité pour une réunion, et cela à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avant cela, eh bien, retour sur ce contexte et ce climat de violence depuis quelques jours. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
On peut dire qu'il y a une séquence qui a tout déclenché, c'est celle du 49-3.
Bah oui, effectivement, hein, c'est à partir du 16 mars au soir, juste après l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne, que vont débuter des rassemblements spontanés ou en tout cas non déclarés. Hein. D'abord, place de la Concorde à Paris face à l'Assemblée, avec des feux de poubelle, des dégradations, des slogans parfois très virulents, rien à voir avec les manifestations à l'appel de l'intersyndicale qui se déroulaient dans le calme.
Et ce climat de violence, donc, il dépasse désormais la question de la réforme des retraites.
Bah oui, il y a les menaces contre les élus, elles ont pris de telles proportions que Renaissance, le parti macroniste, et c'est une information RTL, met en place dès demain une cellule d'aide pour ses élus et ses collaborateurs, une assistance juridique, matérielle et même psychologique, des conseils, des formations, des numéros dédiés pour les aider à faire face. Et puis, bah, il y a les affrontements à Sainte-Soline hier dont on parlait tout à l'heure. Comme on le redoutait, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous Sivin sous Notre-Dame-des-Landes. Mais dans le contexte, on a l'impression qu'il n'y a plus de consentement des citoyens à l'ordre public, mais un rapport de force violent entre État et contestataires.
Et à cela vient s'ajouter la polémique sur l'usage de la force, sur les techniques de maintien de l'ordre.
Bah oui, au motif qu'une manifestation non déclarée est illégale, les forces de l'ordre ont procédé à des interpellations massives, mais le nombre de gardes à vue apparaît finalement disproportionné au vu des poursuites effectives, car le droit de manifester est bel et bien un droit fondamental. Et puis à ces premières critiques se sont ajoutées ces scènes choquantes de dérapage policier jusqu'à cet enregistrement qui met en cause l'attitude des membres des Braves M, ces unités motorisées.
Et sur le plan politique, Marie-Bénédicte, on constate qu'en fait les deux camps s'accusent mutuellement d'être responsables de cette montée de violence.
Bah oui, côté majorité, on estime que la teneur des débats dans l'hémicycle a légitimé la violence des manifestants. Yael Braun-Pivet visait explicitement la France insoumise tout à l'heure au grand jury. Et à gauche, chez les écologistes, bah, on accuse le gouvernement de pousser certains manifestants à la violence par son intransigeance.
Et du coup, on s'interroge finalement qui peut profiter de cette montée de la violence dans le débat public?
Bah écoutez, si on raisonne en termes électoraux, le sondage IFOP fiducial pour le Journal du Dimanche publié aujourd'hui montre qu'en cas d'élection législative anticipée, le Rassemblement National progresserait nettement, il ferait jeu égal avec la NUPES. L'alliance macroniste, elle arriverait 5 points derrière et perdrait une cinquantaine de sièges. Alors on voit mal comment se dégagerait une majorité dans ce cas de figure. En démocratie, quand certaines barrières du vivre ensemble sautent, personne n'est gagnant finalement.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Des scènes de violence qui brouillent forcément un peu la contestation de cette réforme des retraites en attendant la mobilisation de mardi. Alors, pas de grandes manifs ces deux derniers jours, mais quand même de petits rassemblements. On était à Lille hein, tout à l'heure devant la préfecture. Il y en a un peu partout des rassemblements. Il y en a eu ce week-end pour afficher son hostilité à cette réforme pourtant adoptée. Tiens, exemple. Hier matin, c'était à Gaillac dans le Tarn. Une manifestation à vélo et sur un rond-point pour ralentir la circulation, distribuer des tacts. Alors, ambiance bon enfant, en présence d'ailleurs de 3 gendarmes. Depuis le 49.3 et l'interview du président, la colère des manifestants gaillacois se concentre désormais sur Emmanuel Macron, qu'il trouve déconnecté, sourd et provocateur. Reportage Valentin Larquier.
Ce n'est pas une manifestation comme les autres à Gaillac dans le Tarn samedi matin. C'est une vélorution, contraction des mots vélo et révolution. À bicyclette et en musique, une trentaine de manifestants poursuit la mobilisation contre la réforme des retraites. Guillaume fait le tour d'un rond-point de la ville pour ralentir la circulation.
Ça permet de filtrer, que les gens passent, sont pas bloqués indéfiniment. Donc on fait des sourires, etc. C'est une méthode soft qui fonctionne très bien, je pense. Et puis bien sûr, ça participe aussi du blocage général dans le pays et d'espérer qu'à la fin, c'est nous qui gagnons.
Et pour ça, à Gaillac, un collectif citoyen opposé à la réforme s'est créé fin février. Il organise des rassemblements, des actions. Samedi matin, les manifestants gaillacois ciblent directement le président de la République, surtout depuis l'utilisation de l'article 49.3, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Martine.
Le 49.3, moi, ça m'a donné plus envie de me mobiliser. C'est en partie pour ça que je suis sur le rond-point aujourd'hui. Dans le discours globalement qu'il a eu particulièrement mercredi, il reste sourd et aveugle à ce que les gens essaient de lui signifier dans le calme.
À quelques mètres d'une banderole blanche sur laquelle il est écrit « On crèvera pas au boulot », Jérémy, la trentaine, organisateur de cette mobilisation tarnaise, n'attend qu'une chose.
Macron, faut qu'il dégage, mais il dégagera pas de lui-même, donc faut qu'on le pousse à la dégager. Et pour le pousser à dégager, soit ça va y aller par des trucs violents, et moi j'en ai pas spécialement envie, soit c'est en touchant l'économie, en faisant grève notamment, parce que la grève générale, c'est le meilleur moyen.
Le jeune homme est en grève depuis le 7 mars et il se prépare pour la 10e journée de mobilisation mardi.
Reportage signé Valentin Larquier. Dans un instant, justement, cette question, l'isolement d'Emmanuel Macron inquiète-t-il la majorité? On va en parler avec nos débatteurs. Avant d'évoquer l'interdiction de tic-tac, entre autres, sur les téléphones professionnels de tous les fonctionnaires français. A tout de suite.
Grand jury, le MAG sur RTL.
RTL dimanche soir.
Grand jury, le MAG avec Vincent Parisot.
Emmanuel Macron est-il trop isolé, sourd et aveugle à ce que lui dit le pays? Est-ce qu'il est en train d'inquiéter sa majorité? Eh bien, la question se pose aujourd'hui et des signes amènent à le penser. D'ailleurs, on a entendu au grand jury la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, expliquer, disons un peu entre les lignes, qu'elle avait dû s'employer à convaincre Emmanuel Macron de reporter la venue du roi Charles et de renoncer notamment à ce grand dîner à Versailles. Alors, on retrouve nos quatre débatteurs, parce que c'est vrai qu'il y a une inquiétude aujourd'hui dans la majorité de voir le président s'isoler ou rester sourd au conseil d'apaisement, Olivier Bost.
Ça existe, bien sûr, parce que le côté vertical d'Emmanuel Macron continue de surprendre. Même ceux qui le connaissent bien et qui ont été élus en 2017 et qui ont été réélus en 2022, le côté effectivement isolé du président de la République, qui, quoi qu'il arrive, continue de penser qu'il a raison, est quelque chose qui perturbe beaucoup dans la majorité. Il y a un moment qui a été important. Emmanuel Macron a reçu les députés à l'Élysée au lendemain du 49.3, et certains avaient besoin d'être rassurés parce que c'est un moment difficile et compliqué, et d'autres attendaient un peu plus d'explications. Et ce moment-là, finalement, a été mal compris, sinon mal pris, par un certain nombre de députés de la majorité, et qui aujourd'hui encore se demandent si Emmanuel Macron n'est pas finalement déconnecté. Et après, chacun des membres de la majorité sont des élus qui subissent aussi des pressions, qui voient aussi leurs électeurs, qui leur font des reproches, et qui sont donc, eux, au contact, bien plus au contact d'Emmanuel Macron, et qui s'inquiètent de la situation.
Damien Fleurot.
Oui, j'ajouterais empêcher aussi un agenda contraint, on l'a vu avec le report de cette visite de Charles III. Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un président de la République qui a sans doute des difficultés à organiser une rencontre avec les Français, comme il a pu le faire précédemment, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Et puis peut-être aussi un président, parfois, qui répond avec des manières ou pourrait faire des vagues dans sa propre famille politique.
Jim Jarassé, vous aussi, vous avez le sentiment que dans la majorité, cet isolement d'Emmanuel Macron commence à faire peur.
On n'a pas l'impression qu'il soit engagé dans une stratégie d'apaisement et d'écoute active. Et je pense que ça, les députés s'en inquiètent. Idem, lorsqu'il reçoit Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, tout était déjà fixé. Et ça, je pense que c'est la marque d'Emmanuel Macron. Il a du mal à changer. Ça fait des années, depuis le début de son arrivée au pouvoir, qu'il nous promet une nouvelle méthode. Et finalement, les événements se suivent, se ressemblent, mais la méthode ne bouge pas.
Jim Jarassé, Damien Fleureau, Marie-Pierre Haddad, Olivier Boss, merci beaucoup.
Grand jury, Le Mag, Vincent Parizeau.
Et l'invité du grand jury, Le Mag, c'est un spécialiste de la cybersécurité et de la délinquance numérique. Il est le fondateur du blog Zatas.com. Bonsoir Damien Bancal.
Bonsoir.
Alors vous l'avez compris, on change totalement de sujet. On parle de cette décision du gouvernement qui a interdit vendredi dernier l'installation et l'utilisation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels des 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État. Alors cette décision, elle concerne notamment TikTok, mais aussi Twitter, Instagram et un certain nombre d'autres applications de jeux ou de streaming comme Netflix. Comment vous expliquez-vous cette interdiction, Damien Bancal ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on va expliquer à des professionnels qu'un téléphone professionnel n'a pas pour mission d'avoir des outils certes récréatifs, mais qui pourraient être perturbants. Et donc du coup, eh bien, on est dans une chaîne mondiale, très clairement, sur le fait d'interdire certaines applications. On va parler de TikTok, ça paraît évident, mais il y a eu aussi Twitter, Facebook et compagnie, qui pourraient potentiellement, dans les mains de professionnels, d'autant plus des professionnels de la politique, ou en tout cas qui gèrent notre pays, qui gèrent notre vie, eh bien, qui pourraient potentiellement intercepter de l'information qui pourrait être considérée comme sensible, et donc, dans de mauvaises mains, véritablement devenir des outils nuisibles à notre encontre.
C'est TikTok qui pose le plus de problèmes, et les autres sont finalement des victimes collatérales ?
Ce qui est intéressant, c'est que TikTok aura été une espèce de gros pétard qui est en train de faire comprendre à tout le monde qu'une application, quelle qu'elle soit, soyons très clairs, aurait des potentialités de savoir où on est, géolocalisation, savoir ce qu'on dit, mais on l'écrit, connaître notre vie parce qu'on doit remplir certaines petites cases pour pouvoir s'inscrire à ce genre de site. Et TikTok a été aussi montré du doigt parce que ça a été fabriqué, mis en place par une entreprise chinoise avec de fortes possibilités, en tout cas, par le gouvernement chinois, de lire, de suivre. Donc ça, il ne faut pas non plus s'en voiler la face.
D'ailleurs, aux États-Unis, certains, il y a un vrai débat, réclament l'interdiction pure et simple de TikTok.
Oui, alors ça aussi, c'est toujours dans l'exagération de nos amis américains. Il suffit de voir un petit peu ce qui s'est passé au Congrès quand on a quand même un député qui demande si TikTok utilise le Wi-Fi de la maison pour pouvoir se balader. On poserait la même question à Twitter, Facebook ou à d'autres. Oui, il n'y a pas le choix. Donc du coup, ces outils-là peuvent inquiéter plus parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent véritablement en faire. Donc par exemple, lire les informations, rien que déjà celles que moi, l'utilisateur, je fournis, de mon nom à mon prénom, de mon âge, mon numéro de téléphone, voire potentiellement de ma profession. Donc voilà.
Ça ne pose pas de problème quand quand ces sites sont américains, ça en pose quand ils sont chinois, c'est ça ?
La question est excellente, effectivement. On a quand même oublié, il y a 2-3 ans, des employés de Twitter qui avaient été montrés du doigt et même mis à la porte parce qu'ils avaient aidé un pays du côté du Moyen-Orient à cybersurveiller en interne des journalistes.
Alors, tous les fonctionnaires en France n'ont pas de téléphone professionnel, loin s'en faut. Mais cette interdiction, elle va pouvoir être contrôlée et donc éventuellement sanctionnée ou pas ?
C'est simple, il suffit de regarder tous nos élus, qu'ils soient de députés à sénateurs, en passant par président ou présidente de région, qui sont tous très fiers de nous dire « je me lance sur TikTok ». Je pense qu'il va y avoir un léger problème entre ce qui est dit et ce qui va être fait. D'autant plus qu'il va y avoir des dérogations. Alors ça promet aussi.
Merci beaucoup Damien Bancal, spécialiste de la cybersécurité, fondateur du blog Zatas.com. Il est quasiment 7h-10. Écoutez, on va marquer une courte pause et puis dans un instant accueillir Alain Bougrain-Dubourg parce qu'il a une planète à refaire. À tout de suite.
Grand jury, Le Mag, Vincent Parizeau.